Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très importante série concernant le complot meurtrier contre Jésus. Aujourd'hui, nous avons l'étude numéro 10 et c'est la deuxième partie de que faire de Jésus. Nous arrivons maintenant à quelque chose où c'est autour, pas seulement de Pilate, mais maintenant on arrive autour de Hérode. Hérode. Il est clair que pour tout le monde, que Pilate se trouve ici confronté à un sérieux dilemme politique avec Christ qui comparaît devant lui. Il n'a aucun motif légitime pour faire exécuter Jésus d'une part, et il ne peut se permettre de contrarier les chefs religieux par rapport à une question qu'il juge manifestement urgente, et d'autre part, évidemment, on peut bien le dire, plus que urgente. Sachant qu'ils ont la prise, ils ont eu la prise, rappelez-vous, sur le fameux Pilate, et qu'il ne peut se permettre, Pilate, qu'on ternisse encore davantage sa réputation auprès de Rome. Alors les membres du Sanhédrin entendent lui faire condamner Jésus. Soudain, voilà que Pilate a une idée, un flash, qui pourrait lui permettre de se tirer d'affaire. Une illumination. Donc une idée qui émane d'une des nombreuses accusations qui sont portées contre Jésus. Jésus, soi-disant, soulève le peuple en enseignant par toute la Judée depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. Notez Saint-Luc chapitre 23, verset 5. Or, voilà que la Galilée ne fait pas partie de la juridiction de Pilate. Elle appartient à la région que gouverne Hérode Antipas. Pilate réalise ainsi que si Jésus est galiléen, il lui est peut-être possible, va savoir, de remettre à Hérode, qui se trouve justement en ville pour célébrer la Pâque, pour remettre donc à Hérode le soin de trancher cette délicate affaire. Notez maintenant les versets 6 à 8. Et qu'est-ce qu'on a dit de Saint-Luc chapitre 23 ? Quand Pilate a entendu parler de la Galilée, il a demandé si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction de Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode a vu Jésus, il en a eu une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait surtout qu'il le verrait faire quelques miracles, pourquoi pas. Versets 6 à 8. Alors Hérode ne s'intéresse, on l'a compris, à Jésus que par pure curiosité. Il a entendu parler des nombreux miracles que Jésus a accomplis dans toute la Galilée et il espère depuis longtemps lui en faire un maintenant. Pourquoi pas? De toute évidence, Hérode considère Jésus principalement comme une source de divertissement uniquement. C'est triste, mais c'est vrai. Quoi qu'il en soit, il attendait avec impatience de le rencontrer. Pilate fait donc escorter Jésus dans les ruelles de la ville jusqu'au palais de Hérode, situé non loin de là. À cette heure-ci, plusieurs autres résidents sont en train de se réveiller. L'escorte militaire, le Sanhédrin et toute la foule grandissante doivent donc attirer encore beaucoup plus de curieux. La nouvelle que Jésus est traduit en justice commence à se répandre dans toute Jérusalem. Personne ne souhaite poser les yeux sur Jésus plus ardemment que ce fameux Hérode Antipas, ce membre de la dynastie hérodienne qui a fait exécuter, rappelez-vous, Jean-Baptiste, et cela il y a seulement quelques années, Saint Matthieu, chapitre 14, versets 1 à 12. Son palais principal se trouve situé à Tibériade, ville spectaculaire et magnifique nouvellement bâtie sur la rive occidentale de la mer de Galilée, seulement à environ 16 kilomètres de Capernaum, ville natale de l'apôtre Pierre et base d'opération de Jésus. Il y a moins de 10 ans que Hérode a fait bâtir Tibériade, qu'il a nommé en l'honneur de César. Josephus rapporte d'ailleurs que lorsque on a creusé les fondations de la ville, on y a découvert une ancienne sépulture. C'est pourquoi, à l'époque de Jésus, les Juifs jugent la ville souillée. Et quiconque observe la loi de Dieu, évidemment, refuse d'y mettre les pieds, puisque c'est une ville souillée. La ville est donc habitée uniquement, en grande partie, par des Romains et des étrangers. Le ministère de Jésus couvre donc toute la région de la Galilée, mais rien n'indique dans l'Écriture sainte qu'il soit déjà passé par Tibériade. Il cherchait peut-être à éviter Hérode, on le comprend. Après tout, c'est fort probablement dans son palais de Tibériade que le Tétrarque, un nom difficile à prononcer, on le prononce Tétrarque. C'est là que le fameux Hérode a fait décapiter, carrément, rappelez-vous, Jean-Baptiste. Et par ailleurs, on racontait qu'il voulait aussi faire mourir Jésus. Or, bien que Hérode ne l'intimidait évidemment pas, Jésus savait devoir mourir à Jérusalem afin que les saintes Écritures puissent s'accomplir, selon Saint Luc chapitre 13, versets 31 à 33. Voilà donc qui explique que même si Hérode et Jésus ont vécu non loin l'un de l'autre pendant des années, et que Hérode connaissait bien Jésus de réputation. C'est ici la première fois que Hérode a la possibilité de voir Jésus de ses propres yeux. Combien Jésus-Christ doit être loin, loin de cet homme fort et prophétique, capable d'accomplir des miracles que Hérode s'attendait à voir. Rappelons-nous que ici, Jésus a le visage tout condus, on peut dire tout conditionné, boursouflé, enflé, en raison des coups terribles qu'on lui a infligés. Il a dans les cheveux des crachats et du sang qui est en train de sécher. Il est fatigué et physiquement affaibli en raison d'une nuit blanche. Alors il se tient là devant Hérode, lié et sous surveillance comme un vulgaire criminel. Le plus décevant pour Hérode, c'est de devoir essuyer les refus de Jésus d'accomplir un miracle pour lui. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Saint Luc chapitre 23, verset 9. Le Sanhédrin est encore en train de harceler Jésus, ne le lâchant pas d'une semelle, et lui criant des invectives et des accusations, verset 10. Mais Jésus refuse de prononcer un seul mot. En effet, lors de toutes les audiences et de tous les interrogatoires auxquels on le soumet, Jésus demeure étonnamment silencieux. Saint Matthieu chapitre 27, verset 14. Oui, il est déterminé à ne pas se répandre en injures contre tous ses accusateurs, ni à se défendre d'aucune manière. Notez 1er épître de Pierre, chapitre 2, verset 23. Mais, ce n'est que devant Hérode que Jésus gardera le silence complet. Après tout, Hérode n'exerce aucune juridiction légitime à Jérusalem. S'il avait l'intention de juger cette affaire, il lui faudrait renvoyer d'abord Jésus en Galilée pour lui faire subir son procès. Jésus n'est donc pas dans l'obligation de lui répondre de toute manière. Par contre, il se peut que Jésus se taise pour une autre raison. Car d'après le sort que Hérode a réservé à Jean-Baptiste, le prédécesseur de Jésus, celui-ci, Jésus, n'ignore absolument pas ce que le Tétrarque pense de la vérité de Jésus. Si Jésus lui répondait, ce serait comme s'il donnait des choses saintes aux chiens ou s'il jetait ses perles devant les pourceaux, car Hérode est bien capable de se retourner contre Jésus-Christ pour le déchirer. Saint Matthieu chapitre 7, verset 6. Certes, dans de telles circonstances, le silence s'impose. Et il ne faut pas longtemps à Hérode avant de se lasser de questionner Jésus et de se mettre à tourner en ridicule tout cela. Hérode, avec ses gardes, traite Jésus avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu même d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate, selon Saint Luc chapitre 23, verset 11. À cela, Luc ajoute d'ailleurs une note historique. Il dit « Ce jour même, Pilate et Hérode sont devenus les meilleurs amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant, selon le verset 12 de Saint Luc 23, une alliance impie, satanique. Alors est devenue une amitié reposant sur la seule chose qu'ils ont en commun, c'est le sort empreint de lâcheté et de mépris qu'ils font subir à Jésus-Christ. Hérode et Pilate savent que Jésus-Christ ne constitue pas une menace immédiate, aucune menace pour leurs intérêts politiques. Son apparence et sa conduite parlent du reste d'elle-même. Quelle menace politique ? Quelqu'un qui est aussi passif, qui est aussi serein et même fragile, ne disant être qu'un enseignant et un guérisseur, pourrait-il constituer vraiment une quelconque menace? Jamais. Hérode et Pilate savent très bien, ils savent l'un et l'autre, que le Sanhédrin a inventé des accusations de toutes pièces uniquement par envie, par jalousie. Mais Hérode entre dans le jeu avec bonheur. Alors il revêt Jésus d'une togue splendide, probablement de la propre garde-robe de Hérode. Il avait reçu un somptueux cadeau dont celui-ci ne voulait pas. Ensuite, Hérode et ses forces de sûreté soumettent Jésus à leur raillerie et à leur mépris devant toute la foule croissante de spectateurs. Finalement, après s'être amusé aux dépens de Jésus, Hérode le renvoie tout simplement à Pilate. Par son propre refus de parler à Hérode, Jésus contribue à ramener la cause devant le tribunal de Pilate. Ce dernier doit être très surpris et quelque peu frustré de voir revenir le Sanhédrin avec Jésus, talonné par une foule de spectateurs toujours plus nombreuses que jamais. La situation lui échappe donc totalement. Ce sera maintenant beaucoup plus difficile pour Pilate de régler le problème sans créer de scandale susceptible de faire des vagues à Rome, ni, pire encore, de causer une émeute le jour le plus occupé de toute l'année à Jérusalem. Dans un cas comme dans l'autre, Pilate risque ici sa carrière. Le gouverneur décide donc de tenter de se comporter en chef d'État et de trancher la question par un genre de compromis, comme Saint Luc l'explique dans Luc, Évangile de Luc, chapitre 23, versets 13 à 16. Là, il est dit que Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit: vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode du reste non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici donc cet homme qui n'a rien fait, qui soit digne de mort ou pas, je le relâcherai bien si je pouvais, après l'avoir châtié fortement. Saint Luc chapitre 23, verset 13 à 16. Autrement dit, Pilate propose de punir Jésus en le faisant flageller, bien qu'il ne lui reproche rien en guise de compromis. Après quoi, il espère relâcher Jésus s'il vit encore. Pilate suggère en fait de relâcher Jésus selon une coutume ayant cours à l'époque, en geste diplomatique envers les Juifs et de manière à promouvoir la bonne volonté en ce jour de festivité, le gouverneur romain relâche toujours un prisonnier juif à Pâques. Il s'agit très probablement d'une vieille tradition qui date d'avant même le règne de Pilate. Donc à chaque fête, le gouverneur avait pour coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Saint Matthieu chapitre 27, verset 15. Ici, Matthieu ne suggère pas que le gouverneur romain relâchera automatiquement n'importe qui que lui réclamera le peuple en lui permettant de choisir parmi tous les prisonniers incarcérés à ce moment-là. Il veut donc tout simplement dire que les autorités romaines choisiront quelques malfaiteurs dont elle communiquera le nom au peuple pour lui permettre de faire son choix. Puis Rome graciera automatiquement le prisonnier que le peuple aura sélectionné parmi les candidats qui lui auront été proposés. Pilate semble donc avoir résolu de se servir de la coutume à son propre avantage, et ceci dans un ultime effort pour échapper au dilemme que le Sanhédrin lui a posé. Un conflit entre la conscience et la carrière, un choix entre donner satisfaction aux Juifs, qu'il haït de tout son cœur, et au César, qu'il redoute. Ici, il ne suggère que deux prisonniers entre qui le peuple doit choisir. Il y a donc Jésus, dont la popularité parmi les gens du peuple est bien connue. Après tout, moins d'une semaine auparavant, le tout Jérusalem, semble-t-il, s'était présenté pour l'accueillir dans la ville en criant des Hosanna, et on les entendait crier Hosanna sur son passage. À lui et à toute une procession en son honneur. Or, comment Pilate aurait-il pu ignorer la popularité formidable de Jésus? Le seul autre candidat à la libération que Pilate suggère au peuple, c'est un terrible Barabbas, un scélérat, si insensé et notoire, que Pilate semble assuré que le peuple ne le choisira jamais. Et le récit de Matthieu se poursuit ainsi. Notez Saint Matthieu chapitre 27, versets 16 et 17. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient tous assemblés, Pilate leur dit, « Voyons, lequel voulez-vous que je vous relâche ? Est-ce Barabbas ou Jésus ? Jésus qu'on appelle le Christ. » C'est Matthieu 27, versets 16 et 17. Notons que Barabbas a été condamné pour meurtre, rappelez-vous. Et pas seulement pour meurtre, pour des séditions, pour des vols multiples. Selon Saint Luc, verset 25, chapitre 23, et Saint Jean, chapitre 18, verset 40. Donc, ces crimes nombreux l'ont rendu tristement célèbre auprès du peuple, qu'il hait, ça veut dire qu'il ne l'aime pas du tout, et qu'il le redoute probablement. Or Pilate croit, il croit sans doute, que sa ruse forcera le peuple à faire le seul choix possible, et donc à réclamer la libération de Jésus. Ainsi Pilate pourrait éviter de tremper dans le complot meurtrier du Sanhédrin contre Jésus, car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Saint Matthieu, chapitre 27, verset 18. Ce faisant, Pilate pourrait donc relâcher Jésus, tout en donnant au peuple le sentiment de obéir à sa volonté plutôt que de faire le contraire. Quelle manœuvre diplomatique brillante, mais tordue, sinistre. Mais cette manœuvre échoue. D'abord, tandis que Pilate s'apprête à rendre son verdict final, la scène est interrompue d'une manière plutôt inhabituelle, car pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui a fait dire ceci. « Sache qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Verset 19. Le message est apparemment transmis en public, et ceci de manière à ce que tous ceux présents peuvent même l'entendre, servant ainsi d'avertissement non seulement à Pilate, mais encore au Sanhédrin et au peuple. C'est donc dire que dans sa providence miséricordieuse, Dieu le Père a fait coïncider le rêve de la mise en garde de Madame Pilate de manière à pouvoir fournir à tous les intéressés une dernière chance privilégiée de renoncer à poser le geste monstrueux qu'ils ont prévu de poser. Pour ce qui est de Pilate, l'avertissement provenant de sa femme ne fait que aggraver son dilemme de deux côtés. De deux côtés, on le presse de plus en plus, oui, ça devient urgent. Et bien qu'il lui tarde, comme jamais, d'en finir avec toute cette affaire. Mais lorsque le message de la femme de Pilate vient pour interrompre la procédure, le Sanhédrin en profite pour rallier le peuple à sa cause. Il commence donc à faire savoir aux gens qu'ils doivent choisir Barabbas, les principaux sacrificateurs, et les anciens persuadent la foule de demander Barabbas. Il les influence pour qu'ils crient « Nous voulons Barabbas » et de faire périr Jésus. Verset 20. Notons que le Sanhédrin se compose des chefs spirituels de la place. Or le fait pour eux de manipuler ainsi le peuple constitue un abus choquant de l'autorité que Dieu leur a donnée. Mais voilà, la foule s'avère pleinement disposée à se laisser ainsi égarer, tromper. Ici, Pilate répète sa question. Le gouverneur, prenant donc la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Tout le monde répondit « Barabbas, Barabbas, Barabbas !» Verset 21. La foule lui répond ainsi clairement et sans ambiguïté, ni la moindre hésitation. C'est Barabbas, un meurtrier dangereux que nous préférons à Jésus le Juste. Sidéré, étonné, Pilate demande ensuite, « Que ferai-je donc de ce Jésus qu'on appelle Christ ?» Ce à quoi tout le monde répond, « Qu'il soit crucifié, qu'il soit crucifié !» Un point, c'est tout. Verset 22. Pilate, n'arrivant toujours pas à croire que toute la foule puisse nourrir une telle animosité à l'endroit de celui-là même qu'elle a acclamé encore il y a si peu de temps, lui demande ainsi « Mais, quel mal a-t-il fait ?» Et ils ont continué de crier encore beaucoup plus fort « Qu'il soit crucifié, point barre !» Verset 23. Il est donc clair que la foule qui est assoiffée de sang ne se contentera de rien de moins que de l'élimination de Jésus. Il lui importe peu qu'aucune accusation légitime ne pèse contre Jésus-Christ. La foule n'a que faire de la vérité et de la justice. La foule veut tout simplement une crucifixion. Il est donc vrai que plusieurs parmi la foule suivent aveuglément les directives du Sanhédrin, mais il est tout aussi vrai que nombre d'autres détestent Jésus pour les mêmes raisons que nos contemporains le détestent aujourd'hui, puisque, soyons véridiques, n'ayons pas peur de dire, la plupart des humains rejettent la main tendue de Jésus-Christ. Vrai ou pas? Voyez-vous, ces enseignements vont à l'encontre de leur mode de vie impie, mode de vie qui est bientôt comme à Sodome et Gomorre. Ils jugent qui leur en demande beaucoup trop. La vérité qu'ils proclament est trop étroite à leur goût. Mais au fond, le problème c'est que les hommes préfèrent, toujours, on le croirait jamais, mais c'est vrai, les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres sont mauvaises. Notez Saint Jean chapitre 3, verset 19. Pilate est donc au bout du rouleau. Il ne souhaite pas prendre part au complot contre Jésus, mais les chefs religieux ne lui en laissent guère le choix. Une émeute menace donc d'éclater, et Pilate se retrouve finalement sans recours. Pilate, qui commence à voir qu'il ne gagne rien, mais que la multitude augmente, il a pris de l'eau, il commence à se laver les mains en présence de toute la foule et il dit « Sachez que je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Saint Matthieu chapitre 27 verset 24. Le lavement cérémonial des mains constitue simplement un rite juif dont la foule connaît fort bien la signification. Pilate témoigne ainsi le mépris que lui inspire le fait qu'elle l'ait forcé à prendre part au complot contre Jésus. Il lui accorde ici ce qu'elle réclame, d'accord, mais il lui signifie très clairement qu'il agit à contre-cœur. Bien entendu, aucun lavement de main va pouvoir réellement absoudre, rendre Pilate innocent pour la part qu'il prend ainsi à la crucifixion de Jésus. Après tout, Pilate a le pouvoir et même le devoir de l'interdire, mais il n'en fait absolument rien. Il est donc aussi coupable que les autres, et le fait qu'il y participe par opportunisme politique, plutôt que par haine déclarée envers Jésus personnellement, tout cela n'allume ni ne minimise en rien sa culpabilité. Pour leur part, les gens seraient parfaitement heureux d'innocenter Pilate, et tout le peuple répond maintenant que son sang retombe donc sur nous et sur nos enfants. Verset 25. Et donc par cette incroyable parole de condamnation de soi-même, ils acceptent de porter intégralement le blâme, eux et leur postérité. Si c'est là, vraiment, ce qu'il leur en coûte pour lui forcer la main. Évidemment, le fait de dire à Pilate qu'il l'absolve de toute sa culpabilité, tout cela ne change rien à rien. L'Écriture sainte est parfaitement claire sur ce point-là. Pilate, Hérode, le peuple de tout Jérusalem, et les païens qui prendront part à la crucifixion, c'est eux qui emporteront tous ensemble la culpabilité collective, selon Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 27. À ce propos, il y a un fait historique intéressant à noter. à peine quelques mois plus tard, les mêmes chefs religieux qui poussent ici le peuple à déclarer que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, s'opposeront à ce que les disciples prêchent l'Évangile. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Actes chapitre 5, verset 28. Pilate avait donc, on peut dire initialement, il avait espéré faire flageller, fouetter Jésus et ensuite de le relâcher. D'après l'évangile selon saint Jean, Pilate cherche encore ici, un moyen de le faire libérer, ce qui expliquerait qu'il le fasse flageller à ce stade-là. Peut-être croit-il que la vue d'une flagellation par les Romains, que ça pourrait satisfaire la foule qui est assoiffée de sang. Car attention, la flagellation, elle peut mener parfois à une mort certaine. Car, écoutez bien la suite, car le fouet romain, il est constitué d'un manche de bois muni à une extrémité de nombreuses et longues lanières de cuir dont chacune se termine par un morceau de verre, glace, ou par des ossements, ou encore quelques objets très durs. On met donc la victime à nu, puis on l'attache à un poteau par les poignets en veillant à ce qu'elle ait les mains, écoutez bien la suite, suffisamment élevées au-dessus de la tête pour que le supplicié ne porte presque plus les pieds à terre. Elle aura donc la victime, les pieds pendants, et ainsi la peau du dos et des fesses vont être parfaitement tendues. Alors un ou deux flagellateurs, donc des hommes forts qui manient le fouet, lui donne des coups de fouet en y mettant toute leur force et en veillant à ce que les lanières percutent le dos et les fesses en diagonale. Ainsi, voyez-vous, la peau sera littéralement arrachée et les muscles souvent lacérés en profondeur. Et là, il n'est pas rare que le fouet pénètre parfois jusqu'au rein ou lacère des artères, causant ainsi des blessures fatales. Il arrive aussi que des victimes meurent d'un choc extrême lors de la flagellation. Donc on a compris que Jésus va souffrir quelque chose d'extrêmement terrible. L'apôtre Jean rapporte que ici, après que Jésus s'est fait flageller et railler, Pilate tente encore en vain de le faire relâcher, à moitié mort. Le gouverneur ramène donc Jésus à moitié mort devant la foule, vêtu d'une togue, rappelant la tunique d'un soldat, et coiffé d'une couronne d'épines. Tout cela pour le présenter triomphalement au peuple, espérant probablement que celui-ci jugera que Jésus avait vraiment assez souffert. Et Pilate leur dit, « Voici donc l'homme. » Saint Jean, chapitre 19, verset 5. Mais la foule, influencée par tous les démons, refuse de s'en contenter. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers l'ont vu, il crie encore plus fort, « Crucifie ! Oui, crucifie !» Verset 6 de Saint Jean chapitre 19. Encore frappé de voir les gens tellement assoiffés du sang de Jésus, Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Verset 6. Tentons encore, si c'est possible, de se laver les mains de toute cette histoire. Il répète son verdict précédent, déclarant Jésus innocent une fois de plus. Mais voilà que la foule ne veut absolument rien entendre. Satan fait du beau travail. Les Juifs lui répondent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Et quand Pilate a entendu cette parole, eh bien, sa frayeur a augmenté, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « Mais, d'où viens-tu donc ?» Versets 7 à 9 de Saint Jean chapitre 19. Ils exigent donc que Pilate fasse crucifier Jésus par les autorités romaines. Leur mention de l'identité messianique de Jésus semble le secouer. Et de toute évidence, c'est avec émerveillement, avec étonnement et crainte que Pilate demande ici à Jésus, d'où viens-tu? Von wo bist du eigentlich? Mais Jésus ne lui donne point de réponse. Saint Jean, chapitre 19, verset 9. Est-il écrit que Jésus n'a rien dit? Ensuite, l'apôtre Jean poursuit et Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu donc pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai aussi le pouvoir de te relâcher ?» Jésus lui répond, « Mais tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné de en haut, c'est-à-dire si ce pouvoir ne t'avait été donné par mon Père. Et c'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Versets 10 et 11. Pilate commence maintenant à beaucoup comprendre, à comprendre l'énormité de sa faute selon la perspective de Jésus. Peut-être le gouverneur le redoute-t-il par simple superstition, mais il est manifestement ébranlé d'apprendre que Jésus dit être le Fils de Dieu, titre dont il comprend très bien les implications. Il ne veut donc aucunement avoir part de cette culpabilité, qu'il ne manquerait pas de portée si cette affirmation était vraie. Après tout, c'est déjà assez grave qu'il ait fait maltraiter tellement, terriblement. Même si Pilate ne croit pas au Dieu des Hébreux, sa vision romaine du monde polythéiste est empreinte de superstition quant au fait d'offenser des dieux et au prix élevé qu'une telle offense risque de coûter. De plus, Pilate doit avoir la chair de poule d'entendre Jésus lui dire d'un calme et d'une autorité imperturbable « Tu n'aurais, toi, sur moi, aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » C'est d'ailleurs, apparemment, pour cette raison-là, que dès ce moment, Pilate cherchera à le relâcher. Verset 12. Mais voilà, les Juifs continuent de crier plus fort que jamais, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César, car quiconque se fait roi se déclare contre César. » Verset 12. Et voilà d'ailleurs leur carte maîtresse contre Pilate, exprimée ici très clairement, avec laquelle ils exercent sur lui les mêmes pressions que depuis le début. C'est elle qui leur procure une si grande méprise sur le gouverneur. Ils savent très bien qu'ils se préoccupent de ce que peut penser César et de l'effet que toute cette affaire risque d'avoir au bout du compte sur sa carrière. Or, la menace que soulèvent les conspirateurs contre Pilate ne manque pas d'ironie, puisque ils sont tous les deux, c'est-à-dire pas tous les deux, mais tous ensemble, ils sont contre César. Vous l'avez compris, c'est toute la foule qui est contre César. Mais, bien que peu subtil, eh bien, leur menace n'en est pas moins efficace. Et comment ? Alors Pilate, ayant entendu toutes ces paroles, amène maintenant Jésus dehors et il siégea au tribunal, au lieu appelé le pavé et en hébreu Gabatha. Saint Jean chapitre 19 verset 13. Précisons que le pavé correspond à une aire pavée de pierre adjacente à la forteresse Antonia, où on instruit certaines causes militaires et où on détient parfois des prisonniers. Les pierres de pavage existent encore aujourd'hui. Et certaines d'entre elles portent encore les marques que les soldats romains y ont laissées en s'adonnant à des jeux comme le tic-tac-toe, en surveillant les prisonniers lors des audiences. Étant donné que les chefs religieux refusent d'entrer dans la salle d'audience du prétoire, Pilate doit donc conduire Jésus à Gabatha, pour prononcer son jugement final. Il s'y trouve donc là un tribunal où Pilate a la possibilité de donner ses ordres officiels et décisifs. Et à ce sujet, voici que Saint Jean écrit encore au chapitre 19, versets 14 à 16. J'ai dit Saint Jean, chapitre 19, et nous terminerons notre étude d'aujourd'hui. C'était la préparation de la Pâque, et environ la sixième heure. Alors Pilate dit aux Juifs, « Voici donc votre roi !» Mais ils s'écrièrent tous, « Hôte ! Hôte ! Et crucifie-le !» Pilate leur dit, « Mais crucifierai-je votre roi ?» Alors les principaux sacrificateurs répondent, « Nous n'avons de roi que César, ces fouchetons, ces tordus. » Alors, il leur livra Jésus pour être crucifié. Ils ont donc pris Jésus et ils l'ont amené avec eux. Dans la culture romaine, la sixième heure, cela correspond à environ 6 heures du matin, donc à une heure vraiment matinale. La foule persiste encore, toujours, à réclamer à corps et à cri la crucifixion de Jésus. Pilate est finalement acculé aux circonstances qu'il a si désespérément voulu éviter. Mais ne voyant maintenant aucune autre issue, il se résigne à donner l'ordre, à contre-cœur bien entendu, qu'on crucifie Jésus. Et c'est ainsi qu'il vendra son âme éternelle, comme Judas, contre une sécurité d'emploi temporaire. Voilà donc comment Rome en est venu à participer pleinement au complot meurtrier du Sanhédrin. Pilate, la plus grande autorité de la région, s'est vu dans l'impossibilité absolue d'empêcher la crucifixion. Il n'y a désormais plus moyen de l'éviter. Amen. Pour aujourd'hui, nous terminons ici. J'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose de merveilleux. Et je voudrais vous demander d'écouter attentivement. Il faut travailler avec ferveur pendant qu'il en est encore temps. Soyez donc vigilants et fervents dans le service de Dieu et faites-vous souvent cette demande « Pourquoi ai-je choisi de m'approcher de Jésus-Christ ? N'était-ce pas afin de vivre pour Dieu et devenir un homme spirituel? Embrasez-vous donc du désir d'avancer, parce que vous recevrez bientôt la récompense de vos travaux et que alors il n'y aura plus ni crainte ni douleur. Maintenant, un peu de travail. Et puis un grand repos, que dis-je, une joie éternelle. Si vous agissez constamment avec ardeur et fidélité, Dieu aussi sera sans doute fidèle et magnifique dans ses récompenses. Vous devez conserver une ferme espérance de parvenir à la gloire, mais il ne faut pas vous livrer à une sécurité trop profonde de peur de tomber dans le relâchement ou dans la présomption. Il y avait un homme qui flottait souvent, plein d'anxiété, entre la crainte et l'espérance. Étant un jour accablé de tristesse, il entra dans une église et se prosternant devant un autel pour prier, il disait, en redisant en lui-même, « Oh, si je savais que je dois persévérer !» Et là, tout à coup, il a entendu intérieurement cette divine réponse, « Mon fils, si tu le savais, que voudrais-tu faire ? Fais donc maintenant ce que tu dois faire et tu jouiras de la paix. » Consolé ainsi à l'intérieur et fortifié, il s'abandonna sans réserve à la volonté de Dieu et ses agitations ont totalement cessé. Il ne voulait plus rechercher avec curiosité ce qui lui arriverait dans l'avenir, mais il s'appliqua uniquement à connaître la volonté de Dieu et ce qui lui plaît davantage afin de commencer et d'achever tout ce qui est bien. Espérez donc en Dieu et faites le bien. Habitez en paix la terre et vous serez nourris de ses richesses. Psaume 36, verset 3. Une chose refroidit en quelques-uns l'ardeur d'avancer et de se corriger, la crainte des difficultés et le travail du combat. En effet, ceux-là dévancent les autres dans la vertu et qui s'efforcent avec le plus de courage de se vaincre eux-mêmes dans ce qui leur est le plus pénible et qui contrarie le plus leur penchant. Car l'homme fait d'autant plus de progrès et mérite d'autant plus de grâce qu'il se surmonte lui-même et qu'il s'humilie davantage. Il est vrai que tous n'ont pas également à combattre pour se vaincre et mourir à eux-mêmes. Cependant, un homme, une femme, animé d'un zèle ardent, avancera bien plus, même avec de nombreuses passions, qu'un autre à cet égard mieux disposé, mais totalement tiède pour la vertu. Deux choses aident donc surtout à opérer un grand amendement. C'est de s'arracher avec violence à ce que la nature dégradée convoite et travailler ardemment à acquérir la vertu dont on a le plus grand besoin. Attachez-vous donc aussi particulièrement à éviter et à vaincre les défauts qui vous déplaisent le plus dans les autres. Profitez de tout pour votre avancement. Et si vous voyez le bon exemple, alors essayez à les imiter. Que si vous apercevez quelque chose de répréhensible, prenez garde de commettre la même faute. Ou si vous l'avez quelquefois commise, alors tâchez de vous corriger promptement. Amen. Et maintenant, chers amis, prions. Seigneur Jésus-Christ, ô toi qui es le chemin, conduis-nous chaque jour. Ô toi qui es la porte, ouvre-nous l'accès de ton bercail. Ô toi qui es le pain, nourris notre âme affamée. Ô toi qui es l'eau vive, abreuve notre cœur altéré. Ô toi qui es le cep,
fructifie à travers tes humbles sarments. Ô toi, qui l'étoile brillante du matin et le soleil levant dissipe nos ténèbres. Ô toi, qui es le reflet de la gloire de Dieu, viens illuminer notre vie. Ô toi, qui es le prince de la paix, apaise-nous. Ô toi, qui es le témoin fidèle, fais-nous participer à ta fidélité. Ô toi, qui es le serviteur, enseigne-nous à servir. Ô toi, qui es le juste et le saint, délivre-nous de la souillure. Ô toi, qui es le lion de Juda, délivre-nous de la peur et de la timidité. Ô toi, qui es auteur et le consommateur de la foi, délivre-nous du doute. Ô toi, qui es la résurrection et la vie, délivre-nous de la mort. Ô toi, qui es la sainte parole, délivre-nous du silence éternel, des espaces infinis. Ô toi, qui es la tête de l'Église, protège ton corps. Ô toi, qui es l'image de Dieu, montre-nous l'Éternel. Ô toi, qui es le Fils bien-aimé, manifeste le Père. Ô toi, qui es un sauveur puissant, sauve ceux qui périssent. Ô toi, qui es le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, rends-nous plus que vainqueurs. Oui, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par le sang précieux et qui fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, j'aimerais vous rappeler que Dieu vous aime. Dieu vous aime vraiment de tout son cœur. Et il est donc de mon devoir, vous l'avez compris, de vous aimer intensément. Et à ce moment même, je vous enlace et je vous embrasse tous. Et je vous dis oui, je vous aime. Soyez bénis. Et j'aimerais vous mettre quelques chants d'un très lointain passé, figurez-vous, 1954. Et j'espère que ça fonctionne encore, bien que, évidemment, vous comprendrez que la qualité du son n'est plus la même. Ça a beaucoup perdu. Mais l'Esprit Saint, c'est cela qui est important. L'Esprit Saint s'y trouve. Essayons.